Petit Pays de Gaël Faye, lu par Gaël Faye. Accompagnement musical et chant, Samuel Camanzi.
Je ne sais vraiment pas comment cette histoire a commencé. Papa nous avait pourtant tout expliqué, un jour, dans la camionnette. Vous voyez, au Burundi, c'est comme au Rwanda, avait-il dit. Il y a trois groupes différents. On appelle ça les ethnies. Les Hutus sont les plus nombreux. Ils sont petits, avec de gros nez. Comme Donatien, j'avais demandé. Non, lui c'est un Zaïrois, c'est pas pareil. Comme Protée, par exemple, notre cuisinier. Il y a aussi les Toa, les Pygmées. Eux, passons, ils sont quelques-uns seulement, on va dire qu'ils ne comptent pas. Et puis, il y a les Tutsis, comme votre maman. Ils sont beaucoup moins nombreux que les Hutus, ils sont grands et maigres, avec des nez fins, et on ne sait jamais ce qu'ils ont dans la tête. Toi, Gabriel, avait-il dit en me pointant du doigt, tu es un vrai Tutsi. On ne sait jamais ce que tu penses. Là, moi non plus, je ne savais pas ce que je pensais. De toute façon, que peut-on penser de tout ça? Alors, j'ai demandé. La guerre entre les Tutsis et les Hutus, c'est parce qu'ils n'ont pas le même territoire? Non, c'est pas ça, ils ont le même pays. Alors, ils n'ont pas la même langue? Si, ils parlent la même langue. Alors, ils n'ont pas le même Dieu? Si, ils ont le même Dieu. Alors, pourquoi se font-ils la guerre? Parce qu'ils n'ont pas le même nez. La discussion s'était arrêtée là. C'était quand même étrange cette affaire. Je crois que papa non plus n'y comprenait pas grand-chose. À partir de ce jour-là, j'ai commencé à regarder le nez et la taille des gens dans la rue. Quand on faisait des courses dans le centre-ville avec ma petite sœur Anna, on essayait discrètement de deviner qui était Hutu ou Tutsi. On chuchotait. Lui, avec le pantalon blanc, c'est un Hutu. Il est petit avec un gros nez. Ouais, et lui là-bas, avec le chapeau, il est immense, tout maigre, avec un nez tout fin. C'est un Tutsi. Ouais, et lui là-bas, avec la chemise rayée, c'est un Hutu. Mais non, regarde, il est grand et maigre. Oui, mais il a un gros nez. C'est là qu'on s'est mis à douter de cette histoire d'ethnie. Et puis, papa ne voulait pas qu'on en parle. Pour lui, les enfants ne devaient pas se mêler de politique. Mais on n'a pas pu faire autrement. Cette étrange atmosphère enflait de jour en jour. Même à l'école, les copains commençaient à se chamailler à tout bout de champ en se traitant de Hutu ou de Tutsi. Pendant la projection de Cyrano de Bergerac, on a même entendu un élève dire « Regardez, c'est un Tutsi avec son nez !» Le fond de l'air avait changé. Peu importe le nez qu'on avait, on pouvait le sentir. Je ne connaîtrai jamais les véritables raisons de la séparation de mes parents. Mais à y regarder de plus près, on se rendait bien compte qu'il devait y avoir comme un profond malentendu dès le départ. Un vice de fabrication dans leur rencontre. Un astérisque que personne n'avait vu ou voulu voir. Au temps d'avant, mes parents étaient jeunes et beaux. Des cœurs gonflés d'espoir comme le soleil des indépendances. Fallait voir, le jour de leur mariage, papa n'en revenait pas de lui avoir passé la bague au doigt. Bien sûr, il avait un certain charme, le paternel, avec ses yeux verts tranchants, ses cheveux châtain clair veinés de blond et sa stature de viking. Mais il n'arrivait pas à la cheville de maman. Et c'était quelque chose, les chevilles de maman. Ça inaugurait de longues jambes effilées qui mettaient des fusils dans le regard des femmes et des persiennes entrouvertes devant celui des hommes. Papa était un petit Français du Jura, arrivé en Afrique par hasard pour effectuer son service civil. Il venait d'un patelin dans les montagnes qui ressemblait à s'y méprendre au paysage du Burundi. Mais chez lui, il n'y en avait pas, des femmes avec l'allure de maman, des roseaux d'eau douce à la silhouette fuselée, des beautés sveltes comme des gratte-ciel, à la peau noire ébène et aux grands yeux de vache encollée. Fallait entendre. Le jour de leur mariage, une rumba insouciante s'échappait de guitares mal accordées. Le bonheur sifflotait des airs de cha-cha-cha sous un ciel piqué d'étoiles. C'était tout vu. Il n'y avait plus qu'à aimer, vivre, rire, exister, toujours tout droit, sans s'arrêter, jusqu'au bout de la piste et même un peu plus. Seulement, Mes parents étaient des adolescents paumés à qui l'on demande subitement de devenir des adultes responsables. Ils sortaient à peine de leur puberté, de leurs hormones, de leurs nuits blanches qu'il fallait déjà débarrasser les cadavres de bouteilles sifflées, vider les culs de joint des cendriers, ranger dans leurs pochettes les vinyles de rock psychédéliques, plier les pantalons pattes d'eff et les chemises indiennes. La cloche avait sonné. Les enfants, les impôts, les obligations, les soucis sont arrivés trop tôt, trop vite, et avec eux, le doute et les coupeurs de route. Les dictateurs et les coups d'État, les programmes d'ajustement structurel, les renoncements aux idéaux, les matins qui peinent à se lever, le soleil qui traîne chaque jour un peu plus dans son lit. Le réel s'est imposé, rude, féroce. La nonchalance des débuts s'est muée en cadence tyrannique comme le tic-tac implacable d'une pendule. Le naturel s'est pris pour un boomerang et mes parents l'ont reçu en plein visage, réalisant qu'ils avaient confondu le désir et l'amour et que chacun avait fabriqué les qualités de l'autre. Ils n'avaient pas partagé leurs rêves, simplement leurs illusions. Un rêve, ils en avaient eu un chacun, à soi, égoïste, et ils n'étaient pas prêts à combler les attentes de l'autre. Mais, au temps d'avant, avant tout ça, avant ce que je vais raconter et tout le reste, c'était le bonheur, la vie sans se l'expliquer. L'existence était telle qu'elle était, telle qu'elle avait toujours été, et telle que je voulais qu'elle reste. Un doux sommeil, paisible, sans moustique qui vient danser à l'oreille, sans cette pluie de questions qui a fini par tambouriner la tôle de ma tête. Au temps du bonheur, si l'on me demandait « comment ça va ?», je répondais « ça va, du tac au tac ». Le bonheur, ça t'évite de réfléchir. C'est par la suite que je me suis mise à considérer la question, à soupeser le pour et le contre, à esquiver, à opiner vaguement du chef. D'ailleurs, tout le pays s'y était mis. Les gens ne répondaient plus que par « ça va un peu », parce que la vie ne pouvait plus aller complètement bien après tout ce qui nous était arrivé. La routine, celle de son père qui étiole les rêves, au large des paupières, enfourcher son vélo, repartir à zéro, petit gaune de Lyon aux oripeaux d'évasion, partir, non pas pour voir de nouveaux lieux, mais voyager, pour ouvrir de nouveaux yeux, orpailleur d'horizon, y'a que des hôtels mille étoiles pour les clochards célestes qui ne s'embarrassent pas d'un toit, petit croissant beurre, petit français qui flâne, lisait Kerouac et chantait Bob Dylan. Il est parti vivre à la dure, découvrir l'humain, épouser la nature, et de pays en pays, il pédale, et de guerre en maladie, il pédale, s'est usé par la route d'un voyage de 5 ans qu'au bord de son doute, il rencontre un piment. Pili 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 pili, pili 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 pili, sur un croissant au beurre. Pili 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 pili, pili 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 pili, sur un croissant au beurre. Elle était belle comme un piment, une robe du dimanche. Elle rêvait d'un charmant, d'un amour qui s'épanche. Elle vivait dans un quartier populaire, elle avait fui son pays, les pogroms et la guerre, et la terre des ancêtres n'était qu'un vaste mouroir et ce pays d'accueil, un sombre miroir qui lui renvoyait cette image de paria, de réfugié HCR qui glisse aux parois et qui veut s'envoler, partir loin d'ici, là où le ciel ne dit ni Hutu ni Tutsi. Les murs de sa chambre au vert papier peint, recouverts de posters de « Salut les copains », étaient son antre, où elle rêvait d'être hippie, d'écouter du Jimmy et de vivre à Paris. En attendant le bus, sous un arbre en fleurs, son destin croise celui d'un croissant au beurre. Pili 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 pili, pili 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 pili, sur un croissant au beurre. Pili 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 pili, pili 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 pili, sur un croissant au beurre. Elle et il, aux sources du Nil, un vent souffle l'idylle sur les branches d'un nid, d'un croissant beurré, d'un piment swahili qui s'était donc juré de s'aimer pour la vie malgré toutes les routes crevées d'ornières dans le panache de poussière des saisons blanches et sèches. Malgré les doutes et les pluies diluviennes, malgré les torrents de boue qui s'écoulent dans la plaine, le croissant, le piment, ont le goût d'un enfant, puis de un, puis de deux, carpe diem d'un instant. qu'une écluse ne peut contenir les rêves que le cœur transporte et pour lesquels il crève. Pili Pili rêvait de Paris, croissant beurre voulait vivre ici. Ils se croisent, se décroisent les chemins et laissent des enfants au carrefour des destins. Pili 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 sur un croissant au beurre. Pili 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 sur un croissant au beurre. Ce matin-là, dans la classe, c'était l'effervescence. L'instituteur a remis à chacun d'entre nous une lettre envoyée par les élèves d'une classe de CM2 d'Orléans, en France. Nous étions très excités de découvrir notre correspondant. Sur mon enveloppe, mon prénom était écrit en majuscules roses, entouré de drapeaux français, d'étoiles et de quelques cœurs. Le papier sentait fort le parfum sucré. J'ai déplié la lettre soigneusement. L'écriture était régulière et penchée vers la gauche.
Jeudi 11 décembre 1992. Cher Gabriel, je m'appelle Laure et j'ai 10 ans. Je suis en CM2 comme toi. J'habite à Orléans, dans une maison avec un jardin. Je suis grande, j'ai les cheveux blonds jusqu'aux épaules, les yeux verts et des taches de rousseur. Mon petit frère s'appelle Mathieu. Mon père est médecin et ma mère ne travaille pas. J'aime jouer au basketball et je sais cuisiner les crêpes et les gâteaux. Et toi ? J'aime chanter et danser aussi. Et toi ? J'aime regarder la télévision. Et toi ? Je n'aime pas lire. Et toi ? Quand je serai grande, je serai médecin comme mon père. Chaque vacances, je vais chez mes cousins en Vendée. L'année prochaine, j'irai visiter un nouveau parc d'attractions qui s'appelle Disneyland. Tu connais ? Peux-tu m'envoyer ta photo ? J'attends ta réponse avec impatience. Bisous, Laure. PS. As-tu reçu le riz qu'on vous a envoyé ?
Lundi 4 janvier 1993. Cher Laure, Gabi, c'est mon nom. De toute façon, tout a un nom. Les routes, les arbres, les insectes. Mon quartier, par exemple, c'est Kinanira. Ma ville, c'est Bujumbura. Mon pays, c'est le Burundi. Ma sœur, ma mère, mon père, mes copains, ils ont chacun un nom. Un nom qu'ils n'ont pas choisi. On est avec, c'est comme ça. Un jour, j'ai demandé à ceux que j'aime de m'appeler Gabi au lieu de Gabriel. C'était pour choisir à la place de ceux qui avaient choisi à ma place. Alors, pourras-tu m'appeler Gabi, s'il te plaît ? J'ai les yeux marrons, donc je vois les autres qu'en marron. Ma mère, mon père, ma sœur, Protée, Donatien, Innocent, les copains, ils sont tous laids au café. Chacun voit le monde à travers la couleur de ses yeux. Comme tu as les yeux verts, pour toi, je serai vert. J'aime beaucoup de choses que je n'aime pas. J'aime le sucre dans la glace, mais pas le froid. J'aime la piscine, mais pas le chlore. J'aime l'école pour les copains et l'ambiance, mais pas les cours. Grammaire, conjugaison, soustraction, rédaction, punition, c'est la barbe et la barbarie. Plus tard, quand je serai grand, je veux être mécanicien pour ne jamais être en panne dans la vie. Il faut savoir réparer les choses quand elles ne fonctionnent plus. Mais c'est dans longtemps tout ça. Je n'ai que 10 ans et le temps passe lentement, surtout l'après-midi. Car je n'ai jamais école et le dimanche, car je m'ennuie chez ma grand-mère. Il y a 2 mois, on a vacciné toute l'école contre la méningite sous le grand préau. Si tu tombes malade des méninges, c'est grave. Tu ne peux plus réfléchir, il paraît. Alors le proviseur a insisté auprès de tous les parents pour que l'on nous fasse la piqûre. C'est normal. C'est son affaire, nos méninges. Cette année, il va y avoir des élections pour élire un président de la République au Burundi. C'est la première fois que ça arrive. Je ne pourrai pas voter, il faut que j'attende d'être mécanicien. Mais je te donnerai le nom du vainqueur, promis. À bientôt. Bisous, Gabi. PS, je vais me renseigner pour le riz. Yeah, 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 yeah. À Bujumbura, mamie habitait une petite maison au crépi vert, à l'Okaf, l'office des cités africaines, Ngagara, quartier 2. Elle vivait avec sa mère, mon arrière-grand-mère, Rosalie, et son fils, mon oncle Pacifique, en dernière année au lycée Saint-Albert. C'était un sacré beau gosse, Pacifique. Toutes les filles du quartier lui couraient après. Mais lui n'aimait que ses bandes dessinées, sa guitare et la chanson. Il n'avait pas une aussi belle voix que maman, mais sa force d'interprétation était remarquable. Il adorait les chanteurs français romantiques qu'on entendait en boucle à la radio, ceux qui parlaient d'amour et de tristesse en amour. Lorsqu'il les reprenait, ses chansons, elles devenaient siennes. Il fermait les yeux, grimaçait, pleurait. Et alors toute la famille se taisait, même la vieille Rosalie qui ne comprenait pas un mot de français. On l'écoutait sans bouger, ou alors seulement le bout des oreilles, comme les hippopotames qui flottent dans les eaux du port. À l'Okaf, les voisins étaient surtout des Rwandais qui avaient quitté leur pays pour échapper aux tueries, massacres, guerres, pogroms, épurations, destructions, incendies, mouchetsé, pillages, apartheid, viols, meurtres, règlements de compte et que sais-je encore. Comme maman et sa famille, ils avaient fui ces problèmes et en avaient rencontré des nouveaux au Burundi. Pauvreté, exclusion, quota, xénophobie, rejet, bouc émissaire, dépression, mal du pays, nostalgie. Des problèmes de réfugiés. L'année de mes 8 ans, la guerre avait éclaté au Rwanda. C'était au tout début de mon CE2. On avait entendu sur RFI que des rebelles, qu'on appelait le Front Patriotique Rwandais, FPR, avaient attaqué le Rwanda par surprise. Cette armée du FPR était constituée d'enfants de réfugiés rwandais, la génération de maman et Pacifique, venant des pays limitrophes, Ouganda, Burundi, Zaïre. Maman avait dansé et chanté en apprenant cette nouvelle. Je ne l'avais jamais vue aussi heureuse. Sa joie avait été de courte durée. Quelques jours plus tard, on avait appris la mort d'Alphonse. Alphonse était le deuxième frère de maman, l'aîné de la famille, l'orgueil de mamie. Un homme brillant, un ingénieur en physique-chimie, diplômé des plus grandes universités d'Europe et d'Amérique. Alphonse, qui m'avait donné des cours de mathématiques et m'avait soufflé l'envie de devenir mécanicien. Papa l'aimait beaucoup. Il disait « Avec 10 Alphonse, le Burundi devient Singapour en un rien de temps. » Alphonse était un premier de la classe avec l'attitude décontractée d'un cancre, toujours à plaisanter, à chahuter, à nous chatouiller sous les bras et à embrasser maman dans le cou pour l'embêter. Et quand il riait, Alphonse, la joie repeignait les murs du petit salon de mamie. Il était parti au front, sans prévenir personne, ni même laisser une lettre. On s'en moquait de ses diplômes au FPR. Pour eux, c'était un soldat comme les autres. Il est mort là-bas, en brave, pour un pays qu'il ne connaissait pas, où il n'avait jamais mis les pieds. Il est mort là-bas, dans la boue, au champ d'honneur, dans un champ de manioc, comme celui qui ne savait ni un, ni deux, ni lire, ni écrire. Quand il avait un peu trop bu, Alphonse, il attrapait l'humeur mélancolique des enfants d'exilés. Un jour, comme s'il avait eu un pressentiment, il avait parlé de ses funérailles. Il avait dit qu'il voulait une grande fête avec des clowns et des jongleurs et des pagnes colorées, comme au marché central, et des cracheurs de feu et des oraisons solaires, et certainement pas des requiem plombants, des cantiques de Siméon ou des gueules d'enterrement. Le jour des obsèques de tonton Alphonse, Pacifique a pris sa guitare et lui a chanté sa chanson préférée. L'histoire d'un ancien combattant qui dénonce l'absurdité de la guerre. Une chanson à l'image d'Alphonse, drôle en surface, mais triste dans le fond. Mais Pacifique n'a pas pu aller au bout de la chanson. Ses cordes vocales ont lâché.
C'est non l'amour et non la guerre, mes amis. Tenons-nous la main dans la main. Jetez vos armes, jetez vos armes, jetez vos armes. Tenons-nous la main dans la main. Pourquoi la guerre, pourquoi la guerre, pourquoi la guerre? Tenons-nous la main dans la main. La guerre, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. La guerre, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon.
Rosalie avait des cheveux crépus, gris-blancs, qui se dressaient comme une toque au-dessus de son crâne. Cela donnait à sa tête une forme oblongue dont la dimension semblait disproportionnée pour le coup gracile qui la soutenait. On aurait dit un ballon de rugby posé en équilibre sur une aiguille. Rosalie avait presque 100 ans. Il lui arrivait de raconter l'histoire d'un roi qui s'était rebellé contre les colons allemands, puis belges, et qui avait été exilé à l'étranger car il refusait de se convertir au christianisme. Je n'arrivais pas à m'intéresser à ces histoires de monarchie et de père blanc. Je bâillais et pacifique, agacé, me reprochait mon manque de curiosité. Maman lui rétorquait que ses enfants étaient des petits Français, qu'il ne fallait pas nous ennuyer avec leurs histoires de Rwandais. Pacifique passait des heures à écouter la vieille lui raconter le Rwanda ancien, les hauts faits d'armes, la poésie pastorale, les poèmes panégyriques, les danses intore, la généalogie des clans, les valeurs morales. Mamie en voulait à maman de ne pas nous parler Kinyarwanda. Elle disait que cette langue nous permettrait de garder notre identité malgré l'exil. Sinon, nous ne deviendrions jamais de bons Banyarwanda, ceux qui viennent du Rwanda. Maman se fichait de ses arguments. Pour elle, nous étions des petits blancs, à la peau légèrement caramel, mais blancs quand même. S'il nous arrivait de dire quelques mots en Kinyarwanda, aussitôt, elle se moquait de notre accent. Au milieu de tout ça, je peux vous dire que je me foutais bien du Rwanda, sa royauté, ses vaches, ses monts, ses lunes, son lait, son miel et son hydromel pourri. L'après-midi touchait à sa fin. Rosalie continuait de raconter son époque, ses souvenirs sépia d'un Rwanda idéalisé. Elle répétait qu'elle ne voulait pas mourir en exil comme le roi Musinga, qu'il était important qu'elle s'éteigne sur sa terre, dans le pays de ses ancêtres. Rosalie parlait doucement, lentement, avec les intonations d'un joueur de sitar, comme un doux murmure. La cataracte de la vieille lui faisait les yeux bleus. Il semblait toujours que quelques larmes s'apprêtaient à trébucher sur une de ses joues. Pacifique s'abreuvait à plein gosier des paroles de la vieille. Sa tête dodelinée, il se laissait bercer par la nostalgie de sa grand-mère. Il s'est approché d'elle pour serrer sa petite main plate et osseuse entre les siennes et lui a soufflé que les persécutions s'arrêteraient, qu'il était temps de rentrer chez eux, que le Burundi n'était pas leur pays, qu'ils n'avaient pas vocation à rester des réfugiés pour l'éternité. La vieille s'accrochait à son passé, à sa patrie perdue, et le jeune lui vendait son avenir, un pays neuf et moderne pour tous les Rwandais, sans distinction. Pourtant, ils parlaient bien tous les deux de la même chose, le retour au pays. L'une appartenait à l'histoire et l'autre devait la faire. Un vent chaud nous enveloppait, s'enroulait un instant autour de nous et repartait au loin, emportant avec lui de précieuses promesses. Dans le ciel, les premières étoiles s'allumaient timidement. Elles fixaient la petite cour de mamie tout en bas sur terre, un carré d'exil où ma famille s'échangeait des rêves et des espoirs que la vie semblait leur imposer. Liberté est un mot qui se crie. Tuez-nous que les poèmes s'écrivent. Qu'ils remplissent de nos noms tous vos livres, dans la moiteur des nuits et les matins de givre. Que les peintres nous rendent la vie. Sur les mers de l'oubli qu'ils dessinent des navires. Tuez-nous qu'on invente des chants. Les générations à venir feront de nous des martyrs. Debout digne, digne et debout. Des silhouettes se dessinent et se souviennent de nous, des hommes géants, sortent du néant, de la blessure du monde et de son trou béant. Des ombres au tableau, des sorcières à Salem redoutables, comme un seul homme se lève. La liberté est une formule magique, pour nos cœurs détenus dans des cages thoraciques.
Gonna let nobody turn me around, turn me around, turn me around. I ain't gonna tell nobody, turn me around. I'm gonna keep on talking, keep on walking, marching to the land of.
Parce que chaque mot est important, je C'est le grave en italique, je viens de là où la vie ne tient qu'à une trajectoire d'objets métalliques, là où la corruption n'est qu'une gangrène métastase, où on te vole tout, même les points, à la fin de tes phrases. L'opinion publique paraît cynique, indifférente. Dénoncer le mal et faire le bien sont deux choses différentes. Je vais pas vous charmer, j'ai le cœur décharné. Depuis que mon peuple est sorti des charnières rouges de l'île, j'entonnerai pas ton chant de guerre à tue-tête. Tu de cette époque où la moitié du globe vit toujours sous tutelle. Avec leurs droits pollués, ils nous en remettent de plus belle. Nous étions déjà des damnés, maintenant nous devenons leurs poubelles. Y'en a rabord la coupelle du toujours plus quand tout se fait rare. Ils veulent soigner tous nos problèmes, mais leur remède c'est du curare. Et s'ils bousillent nos fusibles pour que l'on vive dans le noir, j'allumerai ma bougie pour lire aux parois de la mémoire. Le monde, je trouve ça fade et les saletés s'affalier. Paraît que les peuples s'affanent, me disait un frère Baïfal. Ouais, ça va, je fais mon temps, jamais mon argent. J'attends, je contemple, donc j'apprends. J'entreprends rien à vrai dire, je m'en bats les reins. Dehors c'est du blin, y'a du crachin et puis des lois des reins. Je dirai rien, je reste pas, la vie c'est d'aider. Il me reste qu'un vieux souvenir comme un cliché de Malik Sidibé. Si c'était à refaire, on viendrait pas faire les mêmes erreurs, juste frère, on viendrait pas faire. Depuis tantôt, je claque ma langue comme un autanto. Vu que la souche retient l'homme, on bouffe que du Monsanto. Réussir c'est se rater, c'est rapper. Je fais du rap karaté à scratcher sur un cerato. C'est bateau tout ce que je dis, donc je finis la bouteille au goulot et à la mer, mon frère, j'enfoie mes. Que dis-je, brise la coquille. Je mélange le jaune et le blanc. Ouais, c'est la crise, copine. Les jeunes chôment sur des bancs. Désolé, ce doit être un problème d'emplacement. Mais vu d'ici, je ne sens qu'un système oppressant. On est tous azonnés, assommés. On sera où quand l'heure de nous-mêmes aura sonné. On est tous azonnés, assommés. Mais dis-moi, on sera où quand l'heure de nous-mêmes aura sonné.
Si elle est guanini, mon mène funga. Na ma umi, vous n'ateseka. Nataka wajulisha, moyoni nimechoka. Ndiyo leo we of freedom naitaka. Ntapigana sitarudi nyuma. Ntajikaza, ni mali kubwa. Uhuru pote dunia. Ain't gonna tell nobody. Turn me around. Turn me around. Turn me around. Ain't gonna tell nobody. Turn me around, I'm gonna keep on talking, keep on walking, marching to the land of freedom.
Je dormais d'un sommeil léger quand j'ai senti qu'on me touchait la tête. J'ai d'abord pensé que des rats grignotaient les boucles de mes cheveux, comme cela arrivait avant que papa n'installe des pièges dans toute la maison. Puis j'ai entendu chuchoter « Gabi, tu dors ?» La voix de Anna a achevé de me réveiller. J'ai ouvert les yeux. Notre chambre était plongée dans le noir. De la main gauche, j'ai tiré le rideau. Un rayon de lune a traversé la moustiquaire de la fenêtre, éclairant le visage apeuré de ma petite sœur. Qu'est-ce qu'on entend, Gabi ? Je n'ai pas compris. La nuit était calme. Je reconnaissais simplement les ululements de la chouette installée dans le faux plafond au-dessus de notre chambre. Je me suis redressé et j'ai attendu jusqu'à ce que résonnent plusieurs bruits secs rapprochés les uns des autres. On dirait des coups de feu. Anna s'est glissée dans mon lit pour se blottir contre moi. Un silence angoissant succédait aux bruits d'explosion et de tirs de mitraillette. Anna et moi étions seuls à la maison. Papa découchait souvent depuis quelque temps. Innocent disait qu'il fréquentait une jeune femme qui habitait la rue derrière chez lui, dans le quartier populaire de Bouïsa. Cela m'attristait car, depuis qu'ils se parlaient à nouveau, j'avais l'espoir que maman et papa se remettent ensemble. J'ai pressé le bouton qui éclairait ma montre. Le cadran affichait 2h du matin. À chaque explosion, Anna se serrait un peu plus contre moi. Il se passe quoi, Gabi ? Je ne sais pas. Les coups de feu ont cessé vers 6h du matin. Papa n'était toujours pas rentré. Nous nous sommes levés, habillés, puis nous avons préparé nos cartables. Protée n'était pas là non plus. Nous avons mis la table du petit déjeuner sur la terrasse. J'ai préparé le thé. Le perroquet faisait des culbutes dans sa cage. J'ai cherché quelqu'un dans la parcelle. Il n'y avait pas âme qui vive. Même le Zamou, la sentinelle, avait disparu. Après avoir mangé, nous avons débarrassé la table, j'ai aidé Anna à se coiffer. Toujours personne dans la maison. Je guettais le portail. C'était l'heure où les employés étaient censés arriver. Mais rien ne bougeait. Nous nous sommes assis sur les marches de l'entrée pour attendre l'arrivée d'Innocent ou de papa. Anna a sorti son cahier de mathématiques de son cartable et s'est mise à réciter ses tables de multiplication. Sur la route, devant la maison, il n'y avait ni piétons ni voitures. Que se passait-il ? Où étaient-ils tous ? On entendait un air de musique classique dans le voisinage. Nous étions un jeudi, mais le quartier était plus calme qu'un dimanche matin. Finalement, une voiture s'est approchée. J'ai reconnu le klaxon de la Pajero et je me suis précipité pour ouvrir le portail. Papa avait un visage grave et des cernes sous les yeux. Il est descendu de la voiture et nous a demandé si nous allions bien. J'ai fait oui de la tête, mais Anna boudait. Elle lui en voulait de nous avoir laissés toute la nuit. Papa a marché rapidement jusqu'au salon. Il a allumé la radio. Nous avons entendu le même air de musique classique qui flottait dehors. Il a mis la main sur son front en répétant « Merde, merde, merde ». Plus tard, j'ai appris que c'était une tradition de passer de la musique classique à la radio quand il y avait un coup d'État. Le 28 novembre 1966, pour le coup d'État de Michel Michombello, c'était la sonate pour piano numéro 21 de Schubert. Le 9 novembre 1976, pour celui de Jean-Baptiste Bagaza, la symphonie numéro 7 de Beethoven. Et le 3 septembre 1987, pour celui de Pierre Bouyoya, le boléro en do majeur de Chopin. Ce jour-là, le 21 octobre 1993, nous avons eu droit au Crépuscule des dieux de Wagner. Une feuille et un stylo apaisent mes délires d'insomniaque. Loin dans mon exil, petit pays d'Afrique des grands lacs. Remémorer ma vie naguère avant la guerre. Trimant pour me rappeler mes sensations sans rapatriement. Petit pays, je t'envoie cette carte postale. Ma rose, mon pétale, mon cristal, ma terre natale. Ça fait longtemps les jardins de Bougainvilliers. Souvenirs renfermés dans la poussière d'un bouquin plié. Sous le soleil, les toits de tôle scintillent, les paysans défrichent la terre en mettant le feu sur des brindilles. Voyez, mon existence avait bien commencé, j'aimerais recommencer depuis le début, mais tu sais comment c'est. Et nous voilà perdus dans les rues de Saint-Denis. Avant qu'on soit sénile, on ira vivre à Guisseny. On fera trembler le sol comme les grondements de nos volcans. Alors petit pays, loin de la guerre, on s'envole quand. Gahugu gatoi, gahugu kaniniya. Ora funmani wafuye, ora gowe ni wagoka. Petit bout d'Afrique, perché en altitude. Je doute de mes amours, tu resteras ma certitude. Réputation recouverte d'un linceul. Petit pays, pendant 3 mois, tout le monde t'a laissé seul. J'avoue, j'ai plaidé, coupable de voyir. Quand tous les projecteurs étaient tournés vers le Zaïre, il fallait reconstruire mon petit pays sur des ossements, des fosses communes, et puis nos cauchemars incessants. Petit pays, te faire sourire sera ma rédemption. Je t'offrirai ma vie, à commencer par cette chanson. L'écriture m'a soigné quand je partais en vrille. Seulement laisse-moi pleurer quand arrivera ce maudit mois d'avril. Tu m'as appris le pardon pour que je fasse peau neuve, petit pays. Dans l'ombre, le diable continue ses manœuvres. Et tu veux vivre malgré les cauchemars qui te hantent. Je suis semence d'exil, d'un résidu d'étoiles filantes. Gahugu gatoi, gahugu kaniniya. Ora funmani wafuye, ora gowe ni wagoka. Gahugu gatoi. Un soir d'amertume, entre le suicide et le meurtre, j'ai gribouillé ces quelques phrases de la pointe neutre de mon feutre. J'ai passé l'âge des pamphlets, quand on s'encanaille, je connais que l'amour et la crainte que celui-ci s'en aille. J'ai rêvé trop longtemps de silence et d'aurore boréale, à force d'être trop sage, je me suis pendu avec mon auréole. J'ai gribouillé des textes pour m'expliquer mes peines, Bujumbura et ma luciole dans mon errance européenne. Je suis né il y a longtemps, un mois d'août, et depuis dans ma tête, c'est tous les jours la saison des doutes. Je me navre et je cherche un havre de paix. Quand l'Afrique se transforme en cadavre, les époques, ça meurt comme les amours. J'ai plus de sommeil et je veille comme un zamou. Laissez-moi vivre, parole de misanthrope, citément un seul de rêve qui soit allé jusqu'au bout du sien propre.
Gahugu gatoi,
Petit pays, quand tu pleures, je pleure. Quand tu ris, je ris. Quand tu meurs, je meurs. Quand tu vis, je vis. Petit pays, je saigne de tes blessures. Petit pays, je t'aime, ça j'en suis sûr. Maman a allumé la radio et le rythme entraînant de la chanson de Papa Wemba a aussitôt envahi l'habitacle. Les cousins se sont mis à gigoter et Christian m'a regardé d'un air malicieux en soulevant ses sourcils et en remuant les épaules comme un danseur éthiopien. Tante Sebi s'est empressée de monter le son de la radio. Depuis le coffre, je voyais les têtes se balancer de gauche à droite au rythme de la musique. Au refrain, les filles chantaient. Cela amusait maman, qui se retournait pour me faire des clins d'œil complices. Un animateur de la radio faisait le clown, chantait par-dessus la musique. Je ne comprenais que certains mots dans ses phrases en Kinyarwanda. Radio 106 FM, Radio Sympa, Papa Wemba. Sur un ton enjoué, il reprenait le refrain, parlait, plaisantait, un vrai zouave à l'antenne. Je m'étais prise au jeu, moi qui, pourtant, détestais danser, je me trémoussais, frappais des mains n'importe comment et chantais « Eh, eh, eh » avec enthousiasme. Quand soudain, j'ai remarqué que plus personne ne bougeait. Les visages des cousins avaient changé d'expression. Christian était figé. Tante Sebi a brusquement éteint la radio. Plus personne ne parlait dans la voiture. Sans voir le visage de maman, je sentais son malaise. J'ai regardé Christian. « Qu'est-ce qu'il y a ?»« Rien. » Des bêtises. C'est l'animateur de la radio, ce qu'il disait. Qu'est-ce qu'il disait ? Il a dit que tous les cafards doivent périr. Les cafards ? Oui, les cafards. Les Inyenzi. Ils utilisent ce mot pour parler de nous, les Tutsis. Depuis le sommet du plongeoir, je voyais Bujumbura et la plaine immense et les montagnes immémoriales du Zaïre, de l'autre côté de la masse bleue du lac Tanganyika. J'étais nu au-dessus de ma ville et une pluie tropicale glissait sur moi en lourds rideaux, me caressait la peau. Des reflets d'arc-en-ciel argenté flottaient dans les nuages tendres. J'entendais la voix des copains. « Vas-y, Gabi ! Allez, Gabi ! Allez !» La peur revenait, celle qui s'amusait à me paralyser depuis toujours. J'ai tourné le dos au bassin, mes talons étaient maintenant dans le vide. J'ai pissé de trouille, le liquide jaune s'enroulait comme du lierre autour de ma jambe. Pour me donner du courage, j'ai poussé un grand cri de Sioux dans le raffut de cascade que faisait la drache. Alors mes jambes se sont pliées comme des ressorts et m'ont propulsé en arrière. Mon corps a fait une rotation dans les airs, le mouvement était parfait, contrôlé par je ne sais quelle force mystérieuse. Après, je me suis simplement senti tomber comme un pantin ridicule. Je ne savais plus où j'étais quand l'eau m'a surpris en m'accueillant dans ses bras cotonneux, m'enveloppant comme une fièvre dans la chaleur de ses remous et de ses bulles d'air chatouilleuses. Arrivé au fond du bassin, je me suis allongé sur le carrelage pour savourer mon exploit. Quand je suis remonté, c'était le triomphe. Les copains se sont précipités sur moi. Ils chantaient « Gabi, Gabi !» La surface de l'eau était devenue tam-tam. Gino m'a levé le bras comme un boxeur victorieux. Francis m'a embrassé le front. Je sentais leur corps glissant contre moi, me frôler, me serrer, m'étreindre. Je l'avais fait. Pour la deuxième fois de ma vie, j'avais vaincu cette maudite peur. Je finirais bien par me dépouiller de cette grotesque carapace. Le vieux gardien du collège est venu nous chasser de la piscine. On a ramassé nos habits trempés. On s'est enfui les fesses à l'air en riant sans raison à en perdre haleine. Le taximan aussi est parti d'un grand fou rire quand il nous a vus grimper dans son véhicule, nu comme des vers. La nuit était tombée sous la pluie. La voiture plein phare s'est mise à descendre lentement les routes sinueuses du quartier Kiriri. Pour voir la ville, il fallait enlever la buée en frottant les vitres avec nos slips. Bujumbura était maintenant une plantation de lumière, un champ de lucioles qui illuminait l'opacité de la plaine. À la radio, Geoffrey Oryema chantait Makembo. Sa voix était un instant de grâce. Elle fondait comme un bout de sucre dans nos âmes. Et ça nous apaisait de notre trop-plein de bonheur. On ne s'était jamais senti si libre, si vivant, de la tête aux pieds, à l'unisson, reliés entre nous par les mêmes veines, irrigués du même fluide voluptueux. Je regrettais ce que j'avais pu penser de Francis. Il était comme nous, comme moi. Un simple enfant qui faisait comme il pouvait, dans un monde qui ne lui donnait pas le choix. Ce matin du 7 avril 1994, la sonnerie du téléphone a retenti dans le vide. Papa n'était pas rentré de la nuit. J'ai fini par décrocher. Allô ? Allô ? C'est toi, maman ? Gabi, passe-moi ton père. Il n'est pas là. Comment ? Elle a fait une pause. J'entendais sa respiration. J'arrive. Comme au lendemain du coup d'État, il n'y avait personne dans la parcelle. Ni Protée, ni Donatien, ni même la sentinelle. Tout le monde avait disparu. Maman est arrivée rapidement sur sa moto. Elle avait encore son casque sur la tête quand elle a monté les marches de la Barza 4 à 4 pour nous prendre dans ses bras, Anna et moi. Maman avait des gestes fébriles. Elle a préparé du thé dans la cuisine, puis est venue s'asseoir dans le salon. Elle tenait sa tasse avec ses deux mains, soufflant sur la vapeur parfumée qui s'en échappait. « Votre père vous laisse souvent seul ?» Au moment où je répondais non, Anna disait oui. La nuit du coup d'État, papa n'était pas là, à lâcher Anna, comme pour régler des comptes. « Salopard !» a lancé maman. Quand papa est arrivé et qu'il est entré dans le salon, il n'a dit bonjour à personne. Il semblait simplement étonné de trouver maman assise sur le canapé. « Qu'est-ce que tu fais là, Yvonne ? Tu n'as pas honte de laisser tes enfants seuls toute la nuit ?»« Ah, je vois. Tu veux qu'on en parle, vraiment ?» Tu as quitté le domicile conjugal, alors tu es certainement la moins bien placée pour les reproches. Maman a fermé les yeux. Elle a baissé la tête. Elle s'est mise à renifler avant d'essuyer son nez avec la manche de son chemisier. Papa l'a regardée durement, prêt à en découdre. Quand elle s'est tournée vers nous, ses yeux étaient rougis par les larmes. Elle a dit « Le président du Burundi et celui du Rwanda ont été tués cette nuit. L'avion dans lequel ils étaient a été abattu au-dessus de Kigali. » Papa s'est laissé tomber dans un fauteuil, sonné. Jeanne et Pacifique ne répondent pas. Tante Sébi non plus. J'ai besoin de ton aide, Michel. À Bujumbura, la situation était calme malgré l'annonce de l'attentat et de la mort du nouveau président. Papa a contacté les gendarmes de l'ambassade de France pendant que maman tentait désespérément de joindre sa famille au Rwanda. Au fil des heures, des jours, des semaines, les nouvelles qui nous parvenaient du Rwanda confirmaient ce que Pacifique avait prédit quelques semaines plus tôt. Partout dans le pays, les Tutsis étaient systématiquement et méthodiquement massacrés, liquidés, éliminés. Maman ne mangeait plus. Maman ne dormait plus. La nuit, elle quittait discrètement son lit. Je l'entendais décrocher le téléphone du salon, composer pour la millième fois les numéros de Jeanne et de Tante Sébi. Le matin, je la retrouvais endormie sur le canapé, le combiné posé à côté de son oreille, la ligne qui sonnait dans le vide. Chaque jour, la liste des morts s'allongeait. Le Rwanda était devenu un immense terrain de chasse dans lequel le Tutsi était le gibier. Un humain coupable d'être né, coupable d'être. Une vermine aux yeux des tueurs. Un cancrelat qu'il fallait écraser. Maman se sentait impuissante, inutile. Malgré sa détermination et l'énergie qu'elle déployait, elle ne parvenait à sauver personne. Elle assistait à la disparition de son peuple, de sa famille, sans rien pouvoir faire. Elle perdait pied, s'éloignait de nous et d'elle-même. Elle était rongée de l'intérieur. Son visage se flétrissait, de lourdes poches cernaient ses yeux, des rides creusaient son front. Les rideaux de la maison restaient tirés en permanence. Nous vivions à contre-jour. La radio résonnait bruyamment dans les grandes pièces sombres, diffusant des cris de détresse, des appels au secours, des souffrances insoutenables au milieu des résultats sportifs, des cours de la bourse et de la petite agitation politique qui faisait tourner le monde. Au Rwanda, cette chose qui n'était pas la guerre dura 3 longs mois. Je ne me souviens plus de ce que nous avons fait durant cette période. Je ne me souviens ni de l'école, ni des copains, ni de notre quotidien. À la maison, nous étions à nouveau tous les 4, mais un immense trou noir nous a engloutis, nous et notre mémoire. D'avril à juillet 1994, nous avons vécu le génocide qui se perpétuait au Rwanda à distance, entre 4 murs, à côté d'un téléphone et d'un poste de radio. S'élève ma voix à jamais, mon petit pays, au Rwanda bien-aimé. 1 million de gouttes d'eau qui tombent de terre en ciel, 1 million de nos tombes en trombe torrentielle, de nos fosses profondes à nos points culminants, nous sommes debout maintenant, les cheveux dans le vent, à conjurer le sort qu'un désastre engloutit, à se dire qu'on est fort, qu'on vient de l'infini.
Je rêve de vous, Kwibuka, I'm dreaming of you.
Je rêve de vous, chanson d'un soir d'ivoire. Je rêve de vous, mes mots sont dérisoires. Je rêve de vous, quand l'histoire nous égare. Je rêve debout, au jardin des mémoires. Et vu que je renais déjà de nos abysses, je fais de nos sourires d'éternelles cicatrices. Et j'arpente la vie sans jamais oublier qu'un orage en avril, qu'un soleil en juillet.
Tout ça, voilà. Tubashimira, tubazirikana, tubibuka, mu bihe byiza, twagiranye, tuzahora, tubahesha, agaciro, tubibuka, n'ubupfura, ubaranga, je rêve de vous, kwibuka, I'm dreaming of you.
Cher Laure, je ne veux plus être mécanicien. Il n'y a plus rien à réparer, plus rien à sauver, plus rien à comprendre. Des jours et des nuits, qu'il neige sur Bujumbura. Des colombes s'exilent dans un ciel laiteux. Les enfants des rues décorent des sapins de mangue rouge, jaune et verte. Les paysans descendent tout chousses de la colline à la plaine, dévalent les grandes avenues dans des luges de fils de fer et de bambou. Le lac Tanganyika est une patinoire où des hippopotames albinos glissent sur leur ventre mou. Des jours et des nuits qu'il neige sur Bujumbura. Les nuages sont des moutons dans une prairie d'azur, les casernes des hôpitaux vides, les prisons des écoles saupoudrées de chaux. La radio diffuse des chants d'oiseaux rares. Le peuple a sorti son drapeau blanc, se livre à des batailles de boules de neige dans des champs de coton. Les rires résonnent, déclenchent des avalanches de sucre glace dans la montagne. Des jours et des nuits, qu'il neige sur Bujumbura. Le dos appuyé contre une pierre tombale, je partage une cigarette avec la vieille Rosalie sur la tombe d'Alphonse et Pacifique. À 6 pieds sous la glace, je les entends réciter des poèmes d'amour pour les femmes qu'ils n'ont pas eu le temps d'aimer, fredonner des chansons d'amitié pour les camarades tombés au combat. Une buée de saison bleue s'échappe de ma bouche, se transforme en une myriade de papillons blancs. Des jours et des nuits qu'il neige sur Bujumbura, les soulards du cabaret boivent au grand jour un lait chaud dans des calices de porcelaine. Le ciel démesuré s'emplit d'étoiles qui clignotent comme des illuminations de Times Square. Mes parents survolent une lune eucharistique à l'arrière d'un traîneau tiré par des crocodiles givrés. À leur passage, Anna jette sur eux des poignées de sacs de riz humanitaires. Des jours et des nuits qu'il neige sur Bujumbura. Te l'ai-je déjà dit. Les flocons se posent délicatement à la surface des choses, recouvrent l'infini, imprègnent le monde de leur blancheur absolue jusqu'au fond de nos cœurs d'ivoire. Il n'y a plus ni paradis, ni enfer. Demain, les chiens se tairont, les volcans dormiront, le peuple votera blanc. Nos fantômes en robe de mariée s'en iront dans le frimas des rues. Nous serons immortels. Depuis des jours et des nuits, il neige. Bujumbura est immaculé. Gabi. À vous aussi, ça fait. Yokae, yoka, yokae, oh. Un peu plus fort, un peu plus fort. Yokae, yoka, yokae, oh. Même au fin fond de mon petit pays, je regardais ma lucarne. Les convulsions du monde nous parvenaient comme un lointain vacarme. Souvent la télé se partageait avec l'ensemble du voisinage. La mondovision canapée transforme le globe en un village. Effraction de l'imaginaire, partageons tous la même doxa. Roger Mila en coupe du monde, et le monde danse le Makossa. La guerre du golfe de Mr. Bush, avant fiston, il y avait papa. Et je matais le pillage des pipelines en bouffant mes papas. Et nous étions tous ces mêmes gamins rêvant d'entrer dans la Dream Team. Malgré l'arceau dans mon jardin, j'ai jamais vu Patrick Ewing. Je me suis accroché à des rêves, souvent très loin de mon quotidien. Je connaissais bien moins ma culture que le western hollywoodien. On pensait tenir aucun rôle dans le programme de leur feuilleton, mais un jour en Gaule, à la Baule, il y a eu le discours de tonton. Démocratie, multipartisme, fallait ranger les pistolets. Comme rien n'est simple, la guerre a éclaté, j'ai éteint ma télé. À vous. Yokae, yokae, yokae. Plus fort. Yokae. Pendant qu'on se débattait dans une fournaise, les autres nous regardaient, assis en charentaise à se demander c'est quoi la télé, c'est quoi ces peuples qui crient à l'aide entre le fromage et le dessert. L'humanité est bien plus fragile qu'une orchidée dans le désert. Et quand le drame est bien trop grand, il se transforme en statistique. Et les Didi a plus de poids qu'un million de morts en Afrique. L'ignorance est moins mortelle que l'indifférence aux sanglots. Les hommes sont des hommes pour les hommes et les loups ne sont que des chiots. Alors on agonise en silence, dans un cri sans écho. Et même si la technique avance, elle ne changera pas la déco. On a grandi avec le poids de nos démons sur le roc des coteaux. Alors donnez-nous des mots pour qu'on vous change la photo, pour qu'on écrive à hauteur d'homme ce que la télé ne montre pas. Les battements du cœur de mon âme est une info qui ne ment pas. Je venais d'Afrique, mais sans connaître Kouchner et puis son sac de riz. J'ai débarqué un soir d'hiver ici avec un sac de rimes. Yokae, yokae, yokae. Perdu mon jardin d'Éden, où je me nourrissais de mangue. Je suis prisonnier de mes chaînes, vu qu'ici la télécommande. Je l'ai rallumé dans un trois pièces d'un immeuble surchauffé. Et je l'ai entretenu comme le feu, parce que dehors je me l'ai congelé. Loin dans mon exil, je zappe ceux qui ont pris ma place. Et quand on joue sur leur terrain, c'est souvent rare qu'on te remplace. Je fais une pause. Le temps d'une pub Coca-Cola, inséré entre un mur qui tombe et la sortie de Mandela. On a grandi en continu comme un flot d'informations. Et je me suis perdu dans ma rue sous un amas de béton. Les souvenirs de ma vie se mélangent à toutes ces images diffusées. Vivre hors champ de la caméra, c'est souvent ne pas exister. On nous gave d'images à satiété, de sexe, de fric et de faucheuses. Alors j'écris des textes comme un écho de nos vies silencieuses. Sur leur écran, on est des bouts de pixels perdus dans la foule. Et nos vies s'écoulent, coulent, pendant que le monde s'écroule.
Yokae, 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 oh, yokae.
C'était Petit Pays de Gaël Faye, lu par Gaël Faye. Accompagnement musical et chant, Samuel Kamanzi.
Vous tout seul.
Enregistré à la Maison de la Poésie, les 18 et 19 janvier 2017.
C'est magnifique.
Conseillère littéraire, Céline Geoffroy. Équipe de réalisation, Mathieu Leroy, Jean-Louis Deloncle, Sandra Ndaizamba, Pablo Valero, Juliette Eman.
Au son, Monsieur François, à la lumière, Camille. Et aux parents de Camille dans la salle.
Merci aux équipes de la Maison de la Poésie. Petit Pays est publié aux éditions Grasset. Il a reçu le prix Goncourt des lycéens 2016 ainsi que le prix du roman des étudiants France Culture Télérama.
Ça veut dire écoute en lingala, yokae.